Le report des élections provinciales à fin 2025. Les élus du Congrès ont donné un avis favorable à une large majorité ce matin. Une minute de silence hier et aujourd'hui dans les collèges et les lycées du territoire. Il s'agit de rendre hommage aux professeurs Samuel Paty et Dominique Bernard, victimes du terrorisme islamique. Au Mont d'Or, c'est jour de vote dans les écoles de la commune. 2000 élèves des classes de CE1 au CM2 votent pour élire leurs représentants dans le prochain conseil municipal junior. En métropole, Michel Barnier aura-t-il recours au 49-3 ? C'est une hypothèse de plus que crédible si les débats entamés ce matin sur le budget 2025 s'enlisent. Marseille en grand, la modernisation de la deuxième ville de France, lancée en grande pompe il y a 3 ans par le chef de l'État, n'a pas produit ses effets. C'est ce que note la Cour des comptes dans le rapport qu'elle vient de rendre public. Et puis en sport, la 3e journée de Ligue des Champions. Demain, Monaco reçoit l'Étoile Rouge de Belgrade et le Paris Saint-Germain accueillera le PSV Eindhoven. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Océan de savoir, c'est le thème de la fête de la science cette année. Fête de la science dont nous parlerons dans le magazine Citoyen. Dès la fin de ce journal, rendre la science accessible à tous, y intéresser les jeunes, pourquoi et comment. Nous en parlerons avec Florian Olivier, qui est le coordinateur de la fête de la science pour le CRECICA, avec Frédéric Barrière, qui est la présidente de Fédés Sciences, avec le rider calédonien plusieurs fois champion du monde de stand-up paddle, Titouan Pouillot, ambassadeur de cet événement, ou encore avec Sylvian Raffin-Artig, le directeur de communication de l'université. Rendez-vous pour le magazine Citoyen dès la fin de ce journal. Le Congrès a donc rendu un avis favorable sur le report des élections provinciales. Les élus étaient réunis pour rendre un avis sur la proposition de loi organique déposée par le groupe socialiste au Sénat. Il prévoit un report de l'échéance électorale au plus tard au 30 novembre 2025 au lieu du 15 décembre prochain, Nicolas Legrand.
Oui, 47 voix pour, une seule contre, celle de Sylvain Pabouty et Aloysio Sacco qui portait aussi la procuration de Kadrili Wright, s'est abstenu. L'État, qui était représenté par le secrétaire général du Haut Commissariat, Stanislas Alfonsi, a rappelé qu'il n'était pas à l'origine de ce texte. Le Premier ministre Michel Barnier s'est tout de même déclaré favorable à un report, qu'est venu d'ailleurs expliquer le ministre chargé des Outre-mer, François-Noël Buffet, la semaine dernière lors de son séjour sur le territoire. Plusieurs raisons expliquent cette volonté de reporter le scrutin selon l'État. D'abord, la situation du territoire en matière économique et sociale. L'heure est à l'apaisement et à la reconstruction, déclare Stanislas Alfonsi, le secrétaire général du Haut-Commissariat. Mais aussi pour des raisons politiques, l'objectif est de disposer de temps, du temps nécessaire pour renouer le dialogue et trouver les voies de la confiance pour sceller un nouvel accord. Et le temps presse pour les loyalistes. Sonia Baquet indique qu'à l'origine, les loyalistes étaient opposés à un report pour des questions de légitimité. Aujourd'hui, ils sont d'accord pour ce report, mais la chef de file des loyalistes pose ses conditions en lançant d'ailleurs un appel solennel à l'UC.
Je vais me permettre de paraphraser le général de Gaulle en disant que sauter sur sa chaise comme un cabri en disant « trouver un accord », ça n'aboutit à rien et ça ne signifie rien. Il faut s'en donner sincèrement les moyens, et j'insiste sur le terme « sincèrement ». Aussi, je voudrais demander aujourd'hui solennellement à l'Union calédonienne d'arrêter les préalables de réunions bilatérales avec l'État et de sujets uniques d'indépendance, mais d'accepter que la moitié de notre population ne veut pas de l'indépendance. Et donc, je demande à l'Union calédonienne de se mettre autour de la table avec l'État et avec cette moitié de la population qui est non indépendantiste, et de se mettre autour de la table pour parler de tout, de leur vision et de notre vision, et de la manière dont on les concilie, et tout ça de manière sincère.
Sonia Baquet qui demande également à l'État d'arrêter de procrastiner, attendant une méthode et un calendrier sur la reprise du dialogue et des actes sur la reconstruction. Un appel resté toutefois sans réponse de la part du groupe UCF-LNKS et nationaliste. Pierre-Chanel Tutugoro appelle toutefois à la reprise des discussions après avoir été, dit-il, rassuré après l'entretien qu'il a eu avec le ministre des Outre-mer.
On a voté favorablement, même si en commission on avait réservé notre avis. On avait motivé cette réserve par rapport à un certain nombre d'éléments dont on avait besoin d'automne lors des entretiens qui étaient prévus pour vendredi dernier avec les ministres d'Outre-mer. Donc ces éléments, on les a entendus. Donc, ça nous a suffisamment rassurés pour porter un vote favorable à ce report. Je rappelle qu'on était les seuls groupes à avoir voté contre au début d'année, lorsque les élections provinciales étaient programmées pour le mois de mai. Donc je pense qu'il faut sereinement, en toute modestie, humilité, réfléchir, puis apprendre à travailler ensemble, puis surtout apprendre à s'entendre.
Au sein du groupe UCF-LNKS et nationaliste, plusieurs voix dissonantes ce matin. Aloysio Sacco qui s'est abstenu et Sylvain Pabouty a lui été le seul conseiller à voter contre. Sylvain Pabouty, membre du groupe UCF-LNKS, mais qui parlait en son nom propre. Proche de la CCAT, il dénonce le passage en force pour justifier ce refus.
Mais il a fallu avoir tout ce qui s'est passé, et notamment avec 11 morts, je dirais même 13 morts, pour qu'on se rende compte aujourd'hui que ce fut un passage en force, et voilà le résultat. Et encore une fois, parce que le Conseil d'État avait donné son avis l'année dernière, mais pour moi, donc, ça constitue, donc, ça participe à cette méthode de passage en force. Donc, je suis contre le report.
À l'origine, l'éveil océanien était contre ce report, mais le consensus qui s'est dégagé dans l'hémicycle a poussé les élus de l'éveil océanien à s'inscrire dans la démarche de reporter le scrutin provincial. Vaïmoua Mouliava a tout de même parlé d'opposition farouche et de principe.
Plusieurs raisons fondent cette position. Nous avons eu l'occasion de l'évoquer. Oui, un profond sentiment d'illégitimité. D'illégitimité qui, je le concède, puisque les services de l'État nous ont dit que vous êtes légitime parce que c'est le droit, c'est juridique, etc., etc. Mais qu'en est-il de la morale ? Qu'en est-il de la morale de nos positions aujourd'hui qui doivent être nourries de sincérité ?
Mais finalement, je le disais, devant la quasi-unanimité, l'éveil océanien se prononce en faveur du report des provinciales. Lors de la séance toujours, Jean-Pierre Djaïwé, le président du groupe UNI, a appelé les uns et les autres à faire preuve de courage et à prendre en compte les erreurs du passé. Et il faut créer les conditions pour que les discussions se tiennent dans la sérénité.
Nous sommes aujourd'hui dans une période de grandes difficultés que la Calédonie n'a jamais connues. Nous sommes aujourd'hui dans une période de sauvegarde, de refondation à partir du plan présenté par le gouvernement. Mais nous savons tous ici que cet avenir ne peut être durable que si l'horizon est porteur de confiance pour tous les Calédoniens. Et donc, c'est à nous de le faire. Ce report nous donne une nouvelle opportunité de nous retrouver autour de la table pour pouvoir discuter, poursuivre les discussions que nous avons tenues pendant toute l'année 2023. Et malheureusement, on n'est pas arrivé à conclure un accord. Aujourd'hui, il faut saisir cette opportunité-là.
La responsabilité incombe aux élus calédoniens et c'est à eux de la saisir, a conclu Jean-Pierre Djaïwé. Virginie Rufnak, chef du groupe Rassemblement, appelle aussi les élus à faire preuve de responsabilité pour trouver un accord global.
Ce qu'il faut regarder, c'est la démarche de fond. Aujourd'hui, nous souhaitons aller vers un accord global et faire preuve de responsabilité et retourner à un dialogue qui est indispensable pour redonner de l'espoir, de la visibilité et de la sérénité aux Calédoniens. Par ailleurs, le président de la République avait suspendu la révision de dégel du corps électoral. Donc si les élections avaient eu lieu en fin d'année, elles auraient eu lieu dans une situation calédonienne très compliquée, déstabilisée, du fait de ce que nous vivons depuis plusieurs mois, mais de surcroît sur un corps électoral non recomposé. Or, cette recomposition est nécessaire, d'ailleurs que le Conseil d'État impose, et que nous avons la responsabilité de construire ensemble. Au-delà de ce sujet, ce sont des vraies perspectives d'avenir que nous souhaitons donner aux Calédoniens, avec ce report qui ne doit pas être inutile, mais qui doit être un temps de travail et de responsabilité pour tous les élus politiques de la Nouvelle-Calédonie. Et il faut nous mettre au travail le plus rapidement possible.
Pour Gilles Brial, élu Les Loyalistes, il faut profiter de ce temps pour mettre en place les conditions d'un scrutin sincère.
Par principe, on est pour des élections qui se tiennent à l'heure. Donc on était pour des élections avant la fin de l'année. Pour ça, il faut trois conditions. Il faut un corps électoral légal, il faut qu'elle puisse se tenir dans une campagne électorale normale et que le jour du scrutin, tout se passe de manière correcte. Et finalement, on a un corps qui est illégal puisqu'il est gelé, donc on est sorti de l'accord de mer, on veut le modifier. On a des campagnes qui peuvent pas bien se passer parce qu'on a des couvre-feux, on peut pas aller encore partout sur le territoire et on a vu pour les législatives qu'il y avait dans certains bureaux de vote des irrégularités. Donc on veut que tout ça soit réglé avant, c'est pour ça qu'on a accepté ce report. Il n'est pas question pour nous de dire on reporte à fin novembre 2025 pour juste gagner du temps. On veut que ce temps soit utilisé pour discuter et pour offrir aux Calédoniens une sortie de crise et un accord politique qui pérennise la situation calédonienne.
Et enfin, pour Calédonie Ensemble, il était impossible d'organiser des élections en décembre. Il faut donc maintenant prendre le temps d'aboutir à un accord, déclare Philippe Dunoyer.
Très favorable à ce report. C'est quasiment une unanimité. Il y a plus de voix pour aujourd'hui qu'en début d'année lorsqu'il s'était agi du premier report. Et je pense que ça traduit, en tout cas c'est notre vœu, la nécessité de se donner un temps, véritablement cette fois-ci, pour engager les discussions et dégager un accord. Rien n'est plus important que le redressement économique et social et la conclusion d'un accord. Je crois que c'est la logique qui a présidé au dépôt de cette proposition de loi, c'est la logique dans laquelle elle a été présentée et c'est celle dans laquelle on s'inscrit, nous.
La proposition de loi organique qui prévoit donc le report des élections provinciales au plus tard au 30 novembre 2025 sera examinée demain au Sénat à Paris, le 23 octobre, avant d'être examinée ensuite à l'Assemblée nationale.
Et cette séance du Congrès avait débuté à 9h par le remplacement de Charles Wachetin à la commission permanente. L'élu du groupe UNI avait présenté sa démission le 9 octobre dernier. Son groupe a proposé la candidature d'Inès Coaté pour le remplacer, proposition qui a été adoptée à l'unanimité.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS avec la réponse à notre question d'hier. 89% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS disent être plutôt inquiets après les 4 jours passés par le nouveau ministre des Outre-mer en Nouvelle-Calédonie. Ils sont 11% à se dire plutôt rassurés au terme de cette visite. Et puis voici notre question du jour. Comprenez-vous la prolongation du couvre-feu pour 15 jours supplémentaires jusqu'au 4 novembre? Si vous comprenez cette prolongation, vous tapez 1. Si vous ne la comprenez pas, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Rappelons en bref que c'est aujourd'hui que se referme la conférence sur le PS2R, le plan de sauvegarde, de refondation et de reconstruction du gouvernement qui avait été lancé jeudi dernier en présence de François-Noël Buffet, le ministre des Outre-mer. Cet après-midi, les participants présenteront les conclusions sur les 5 thèmes de ce plan. Les principes de la refondation, le modèle économique, le modèle institutionnel, le modèle santé sociale et le modèle sociétal. Les élus de la province des îles sont eux réunis en séance publique depuis ce matin. Ils devaient examiner notamment un texte sur le budget réajusté de la province pour l'exercice 2024. Un texte relatif à la reprise de provisions pour risques financiers de la créance de la CAFAT. Ils devaient aussi entériner la modification qui fixe le taux des indemnités, les conditions de déplacement et le régime de couverture sociale des membres de l'Assemblée de province. Et puis les faits divers avec cet incendie qui a démarré hier vers 13h30 à Bouloux-Paris sur une propriété de près de la RP4. Les flammes ont traversé 2 propriétés privées dont les habitations ont été sécurisées. Cet incendie est désormais maîtrisé, mais il reste sous une surveillance active. Il a ravagé près de 100 hectares depuis hier après-midi. Il est 11h42, une première pause dans ce journal avant de voir dans un instant ce qui fait le reste de l'actualité sur le territoire.
Toute l'info en 3 lettres, RRB. Bénéficiez de nos offres chez Toyota jusqu'au 30 novembre. Économisez jusqu'à 34% sur l'achat de votre Toyota. Le nouveau Toyota Hilux simple cabine à partir de 2 295 000 francs. 2 295 000 francs. Le Toyota Hilux King Cab à partir de 2 495 000 francs. 2 495 000 francs. Le Toyota Land Cruiser à partir de 3 395 000 francs. 3 395 000 francs. Et le Toyota Yas à partir de 2 395 000 francs. 2 395 000 francs. Alors n'attendez plus et profitez de cette offre tant qu'il est encore temps. Jusqu'au 30 novembre. Toyota reste ouvert en continu de 7h30 à 17h. Alors passez nous voir, même à midi, voire conditions en concession. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB mobilisé, nous le devons à votre confiance et à votre fidélité. Toutes les équipes de Radio Rythme Bleu sont engagées à vos côtés pour vous informer, vous accompagner et vous aider dans ces temps difficiles.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
Une deuxième page consacrée toujours à l'actualité sur le territoire avec d'abord cette minute de silence observée dans les collèges et lycées du territoire. Il s'agit de rendre hommage aux enseignants Samuel Paty et Dominique Bernard, Léo Fichou. Et
oui, Samuel Paty en 2020, Dominique Bernard l'an dernier avait été, on le rappelle, assassiné par des terroristes islamistes. Comme en métropole, il y a quelques jours, chaque établissement calédonien était appelé à s'organiser selon les horaires et les modalités que les équipes pédagogiques jugeront les plus appropriées pour rendre un dernier hommage, un nouvel hommage plutôt. Au collège de Magenta, la minute de silence était observée lors de la 3e heure de cours ce matin. Minute de silence accompagnée d'explications et d'un échange avec les élèves, explique Jean-Pascal Rivano, le directeur du collège.
Expliquer ce devoir de mémoire, de transmission, avec le moment clé, la minute de silence, qui permettra justement de prendre ce temps d'hommage des élèves et de la communauté éducative envers ces enseignants assassinés. Il est donc important d'échanger, de travailler autour de la République, des valeurs de respect, des valeurs de transmission, de l'engagement de chacun.
Un message entendu par les élèves du collège de Magenta. Après avoir respecté cette minute de silence, ils ont donc pu échanger sur les assassinats et avoir des réponses à leurs questions sur les faits. Pour Paul et Violette, ces temps d'échange et d'hommage sont importants.
C'est très important, je trouve que même plusieurs pays pourraient le faire. Bah, on s'est tous levés pour penser à leur famille, si elles vont bien.
Ça représente beaucoup parce que peut-être on n'est pas assez sensibilisé par rapport à la mort au sens propre. Et j'espère qu'en hommage à ces personnes, qu'on puisse faire changer les choses, nous la jeunesse.
Et puis aussi, j'aimerais pas trop que ça arrive à ma mère puisqu'elle est aussi professeure d'art appliqué. Je serais démoralisée si ça arriverait à ma mère.
Si l'hommage a été respecté au collège de Magenta, on rappelle que ça n'a pas été le cas partout en métropole. 119 incidents ont été relevés pendant la minute de silence.
Et de son côté, le collège Edmé Varin d'Auteuil-Léo a organisé ce matin un forum des métiers de la défense et de la sécurité. Les élèves de 3e ont notamment pu rencontrer et échanger avec les forces de l'ordre et les pompiers.
Dans la cour du collège, tous les élèves de 3e se sont succédés sur les différents stands. Grâce à la classe de défense qui a organisé ce forum, les jeunes ont pu rencontrer les gendarmes, la police nationale et municipale, l'armée de l'air ou encore le SNU, Service National Universel. Kylian, Tessa, Keliana et Georges font partie de cette classe de défense qui a organisé ce forum.
Nous avons un partenariat avec la marine de Nouvelle-Calédonie, plus avec le POM, l'Auguste Bénébig.
C'est très important pour nous, surtout les troisièmes, de venir poser des questions sur tous les métiers.
Ça peut très bien leur servir, comme il y en a certains qui ont déjà des idées, mais qui ne pensaient pas que ça pouvait être intégré dans les corps de métiers de l'armée.
C'est particulièrement les classes de 3e. Ils viennent pendant leur heure de cours, qu'on a bien demandé aux professeurs. Et ensuite, durant la récréation, tout le monde peut venir voir. Donc 5e, 4e et 6e, ils peuvent, mais particulièrement les 3e pendant les cours.
J'ai ressenti de l'admiration par rapport à la police municipale, encore aux pompiers, que pendant les émeutes, ils ont beaucoup galéré.
Et justement, Julien est caporal-chef sapeur-pompier à Dumbéa depuis 8 ans. Il était ce matin au collège d'Auteuil pour présenter son métier et donner envie, pourquoi pas, aux jeunes élèves de devenir pompiers volontaires.
De voir des pompiers, ça met toujours des étoiles dans les yeux. Donc forcément, oui, c'est bien de pouvoir transmettre déjà notre passion à nous et puis de pouvoir aider à recruter les jeunes. On a toujours besoin de jeunes parce que ça nous fait des bras en plus, entre guillemets. Ça nous permet de pouvoir avoir du monde sur les interventions qui peuvent être longues. Mais on transmet surtout le cursus pour pouvoir être pompier volontaire, les formations qui passent en tant que pompier volontaire pour pouvoir se faire de l'expérience, pour pouvoir avoir des formations.
Et le forum des métiers qui s'est donc déroulé ce matin au collège Edmé Varin d'Auteuil et s'est achevé à 11h30. Mais le rendez-vous est déjà pris pour l'an prochain.
Au Mont d'Or, c'est jour d'élection aujourd'hui dans les 12 écoles de la commune. Près de 2000 élèves des classes de CE1 au CM2 votent en effet pour élire leurs représentants dans le prochain conseil municipal junior. Conseil qui comprendra donc 2 conseillers municipaux par école, soit 24 au total. Ils seront installés la semaine prochaine. Valérie Boulot est adjointe au maire du Mont d'Or en charge notamment de l'enseignement.
L'idée, c'est de choisir 2 parmi leurs candidats. Donc cette élection se passe dans les 12 écoles de la commune. Parmi les CE2, CM1 jusqu'au CM2, mais seuls les élèves de CE2, CM1, CM2 seront élus. 2 élèves par classe qui seront ambassadeurs pour leur classe sur des thématiques liées notamment à la jeunesse, l'environnement, les gestes éco-responsables, la citoyenneté, la solidarité, toutes les thématiques proposées par les jeunes candidats. Je reviens par exemple du groupe scolaire de Boulary où une classe de CE1 ont fabriqué eux-mêmes, ils ont constitué à l'aide de leur enseignante Cynthia, là, un bureau de vote et ils le font vraiment en bonne et due forme. Les bulletins de vote sont installés sur la table, il y a des assesseurs comme pour une véritable élection et chacun passe à tour de rôle dans l'isoloir pour mettre son petit bulletin de vote.
Les 24 nouveaux conseillers municipaux juniors seront installés le mercredi 6 novembre prochain à la mairie du Mont d'Or. À propos du Mont d'Or, notez que l'agence EEC de Boulary est de nouveau ouverte au public. Elle était fermée depuis le mois de mai, victime des émeutes de la CCAT. L'espace EEC a donc été entièrement rénové. Il accueille de nouveau le public depuis hier. Les associations menacées dans leur fonctionnement, beaucoup d'entre elles n'ont pas de ressources propres ou elles sont insuffisantes pour couvrir les besoins de leur mission et elles vivent grâce aux subventions des collectivités publiques. Avant les émeutes du mois de mai, la situation des associations était déjà tendue. Elle est depuis devenue catastrophique pour beaucoup d'entre elles. À l'occasion de la fête de la science, notre invitée ce matin était Frédérique Barrière, présidente de Fédésciences. Elle fait partie des responsables du CDA, le collectif des associations, reçu le week-end dernier par le cabinet du ministre chargé des Outre-mer pour tirer la sonnette d'alarme.
On a plus de 13 000 associations en Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est une étude qui avait été faite en 2015 suite à la création du fameux collectif des associations qui a été créé en 2014, qui avait déjà pour objectif d'organiser en fait les associations. Une étude avait été menée et avait conclu à ce que en Calédonie, on a plus de 13 000 associations qui génèrent 3 000 emplois. La CCI a indiqué aussi que ça correspondait à 10 % du PIB de la Nouvelle-Calédonie, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et donc, en fait, après avoir souligné ce rôle des associations, rôle économique, mais aussi rôle d'un point de vue mission, puisque certaines associations accomplissent des missions de service public aussi, on voulait lui demander une aide parce que certaines associations sont en mode survie. Certaines ont déjà mis la clé sous la porte. Et donc, nous, notre objectif, c'était de demander à l'État comment est-ce qu'il pourrait nous aider, et par exemple, au même titre que les entreprises, nous octroyer un fonds de soutien pour nous aider à passer, à franchir ce cap de la crise engendrée par les émeutes du mois de mai.
Frédéric Barrière, la présidente de Fédésciences, qui était donc notre invitée ce matin à 7h30. Une nouvelle opération de dons de blancs de poulet proposée par la société Saint-Vincent-de-Paul à Normandie. Des blancs de poulet distribués gratuitement tous les matins de 8h à midi pour les personnes dans le besoin et les plus démunies. Chacune d'entre elles peut repartir avec 1 kg de blancs de poulet, mais aussi des légumes et du riz, explique Elisabeth Gaulle, la présidente de la société Saint-Vincent-de-Paul.
Nous avons des dons de blancs de poulet de Nouvelle-Zélande qui nous ont été octroyés par l'église Jésus-Christ des 5 derniers jours. En fait, si vous voulez, on en profite donc pour distribuer aux plus démunis 1 kg de blanc de poulet par personne, plus 1 kg de légumes environ et un sac de riz. Alors ça se passe dans nos locaux, ce qui nous reste, c'est-à-dire à Normandie, rue Palacete Sacco. C'est pour les plus démunis, bien évidemment. Ce sont des gens qui nous sont envoyés par les CCS, par les DSU ou par les assistantes sociales. Alors ce sont des gens qui ont des critères particuliers, ce sont soit des chômeurs qui ont perdu leur emploi lors des exactions, soit des personnes qui ont tout perdu ou des personnes démunies de plus de 70 ans. Là, l'objectif, c'est la solidarité, c'est aider les gens les plus malheureux et depuis mai, on sait qu'il y en a de plus en plus qui ont du mal à joindre les deux bouts et qui commencent vraiment à avoir faim, quoi. Des familles avec des enfants. Depuis 3 semaines, nous, on amène des protéines et des légumes. Voilà, on fait le mieux qu'on peut.
Et cette distribution a donc lieu tous les matins de 8h à midi au doc de la société Saint-Vincent-de-Paul à Normandie. 11h et bientôt 53 minutes. Une nouvelle pause avant de voir l'actualité en métropole et notamment le début de l'examen du budget à l'Assemblée nationale.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Cherchez un véhicule d'occasion au meilleur prix, entretenu, révisé, garanti. Au parking Birakem, en ce moment, 50 véhicules d'occasion sont à moins de 1 million. Alors c'est le moment d'en profiter. 50 véhicules seulement, à moins de 1 million de francs. Rendez-vous au parking Birakem, au 4e kilomètre. Nous avons certainement votre future voiture. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Envie de lui faire plaisir? Offrez-lui un bijou Créator. Créator, c'est plus de 4000 références et autant d'idées cadeaux. Deux adresses, Alma et 7e kilomètre. Créator, le plus grand choix de bijoux de Nouvelle-Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité nationale, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Baudin.
Avec l'examen du budget 2025 de la France qui a débuté ce matin pour nous au Palais Bourbon par son volet recettes. Exercice à haut risque pour le gouvernement de Michel Barnier qui affronte son premier test à l'Assemblée nationale. C'est le texte préparé par le Premier ministre et son gouvernement qui est étudié et non pas la version modifiée par la Commission des finances, trop éloignée de la version originale et qui a finalement été rejetée. Face à une Assemblée sans majorité claire, les débats s'annoncent intenses, à moins que Michel Barnier, comme il l'a déjà évoqué, choisisse d'avoir recours au 49-3, une possibilité qui divise les députés. Alexis de La Fontaine pour Europe 1.
Dans la majorité, deux camps s'opposent. D'un côté, les partisans d'un débat ouvert et constructif, c'est-à-dire laisser du temps aux députés pour amender le texte et ainsi éviter d'être accusé de museler le Parlement pour ne pas répéter les erreurs d'Elisabeth Borne. Mais attention, cette liberté pourrait se payer très cher, comme ce fut le cas en commission la semaine dernière avec l'adoption d'amendements folkloriques. Michel Barnier devrait donc siffler la fin de la récré avec un 49-3 assez rapidement. Demain soir ou mercredi matin, prévoit un député macroniste, cette décision permettrait surtout au Premier ministre de garantir l'unité de sa coalition plutôt que d'afficher leur division.
En ouverture des débats, le ministre de l'économie a plaidé pour un budget qui doit permettre de ramener le déficit public à 5% du PIB en 2025. Antoine Armand a réfuté toute austérité alors qu'il prévoit une augmentation de la dépense publique de 0,4%. Le Rassemblement national, lui, ne votera pas ce budget tel quel. Le président du RN, Jordan Bardella, l'a confirmé à nos confrères d'Europe 1. Plusieurs dispositions lui semblent inadaptées, mais aussi la répartition choisie pour faire 60 milliards d'économies, 20 milliards de part de nouvelles taxes et impôts et 40 milliards de réduction des dépenses publiques.
Ça ne nous convient pas parce que c'est un budget qui fait les poches de la France du travail. Et moi, je ne peux pas voter et on ne peut pas accepter un budget qui prévoit l'augmentation des taxes sur l'électricité à l'heure où, l'an dernier, il y a beaucoup de nos compatriotes qui ont renoncé à se chauffer parce que la facture était beaucoup trop importante avec des augmentations permanentes de taxes sur l'électricité ou le gaz. Un budget qui prévoit l'augmentation du coût du travail et évidemment qui va aussi pénaliser les épargnants. Et moi, je me suis opposé à tout rehaussement du niveau, notamment de la flat tax, parce que je pense qu'on fragilise aussi les épargnants. La difficulté de ce budget, c'est qu'on est pris en étau entre des choix injustes sur le plan social par le gouvernement et une folie fiscale de la part de la NUPES, de l'extrême gauche, une sorte de sadisme fiscal où la France insoumise et l'ensemble de ses amis rivalisent d'inventivité pour créer de nouveaux impôts et créer de nouvelles taxes.
Jordan Bardella sur Europe 1. L'actualité en métropole, c'est aussi ce rapport de la Cour des comptes. Il y a 3 ans, Emmanuel Macron lançait le chantier slogan « Marseille en grand ». Il s'agissait de redresser et de moderniser la deuxième ville de France, mais en 3 ans, il ne s'est pas passé grand-chose, note la Cour des comptes, et les Marseillais n'ont pas vu les effets des 5 milliards d'euros mis sur la table. Alexis de la Fléchère pour Europe 1.
Dans un rapport de 155 pages publié aujourd'hui, l'instance pointe du doigt un manque de suivi des dossiers, mais aussi un manque de concertation avec les acteurs locaux. Un plan marseillais, je cite, « inabouti et aux effets incertains ». Si des renforts sont bien arrivés chez les forces de l'ordre, ils n'ont pas permis de ramener les effectifs à leur niveau de 2017 et pour l'instant le pilonnage des points de deal ne fait que déplacer les trafics. Côté éducation, l'instance s'interroge sur le calendrier. Rien de précis, dit-elle, en rappelant que 188 écoles doivent être rénovées au total avec 400 millions d'euros. La rénovation des hôpitaux aussi, l'aide de 240 millions d'euros n'a pas encore été versée. Enfin, au niveau des transports, la Cour des comptes indique que les 15 projets prévus ne répondent que partiellement à l'objectif affiché de désenclaver les quartiers nord de la cité phocéenne, des quartiers nord qui ne bénéficient d'aucune liaison directe avec le centre-ville.
À l'étranger, en bref, Israël poursuit sa lutte contre le Hezbollah. L'armée israélienne annonce avoir tué en Syrie l'un des responsables du mouvement terroriste qui était chargé d'une partie de son financement. Il était en effet le commandant d'une unité du Hezbollah responsable de transferts de fonds obtenus grâce à la vente du pétrole iranien. Et puis l'actualité dans la région avec un important rendez-vous à Apia en fin de semaine. La capitale des Samoa va en effet accueillir la 27e réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth. Jean-Pierre Zajac.
Cette réunion biennale sera surtout une grande première régionale, car jamais auparavant, l'organisation de ce sommet n'avait été confiée à une nation insulaire du Pacifique. La première ministre du Samoa, Fiamme Naomi Mataafa, à qui a été confiée cette responsabilité, a déclaré que, je la cite, « unis par l'histoire et portés par l'avenir, nous nous réunissons pour trouver des solutions aux défis mondiaux, du changement climatique à l'incertitude économique, de la justice sociale au progrès technologique. Les petits États insulaires de la zone n'ont pas été oubliés. Leur vulnérabilité se trouvera en tête de notre ordre du jour, a annoncé la secrétaire générale du Commonwealth, Patricia Scotland. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Dans un instant, on va refermer ce journal par l'actualité sportive. Ensuite, ce sera le magazine citoyen.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Votre restaurant La Braise vous accueille du mardi au samedi au 7 route de Lanzvata. Spécialiste dans la cuisson au feu de bois et à la braise, venez partager un moment dans une ambiance chaleureuse et familiale avec un espace dédié aux enfants. La Braise, votre restaurant de viande à Nouméa. Réservez vite au 450-850.
Des conseils concernant les placements, l'épargne, les SCPI ou encore la retraite? Caplif, votre expert calédonien en gestion de patrimoine, vous accompagne avec des solutions personnalisées. Caplif, depuis 35 ans à vos côtés. Et ce n'est que le début. Contactez Caplif au 28 30 00. RIAS 170 052, ORIAS 13103.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite d'Infomag avec le sport, et avant de retrouver Jean-François Baudet, on salue notre partenaire.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Le sport que nous ouvrons avec du football, Léo Fichou, J-1 avant le retour de la Ligue des Champions.
Effectivement, et c'est Monaco qui ouvrira le bal de cette troisième journée de Coupe d'Europe demain matin pour nous à 3h45. Les Monégasques invaincus depuis le début de la saison en Ligue 1, mais aussi en Ligue des Champions. Ils restent sur 7 victoires et 3 matchs nuls. Reçoivent l'étoile rouge de Belgrade. Ensuite, à 6h, toujours demain matin, le Paris Saint-Germain doit se reprendre après sa défaite contre Arsenal. 2-0, on le rappelle, c'était lors de la deuxième journée de la Ligue des Champions, les Parisiens qui reçoivent le PSV Eindhoven. Enfin, jeudi matin, Lille affrontera de nouveau un club espagnol après avoir battu le Real Madrid 1-0 au début du mois. Les Dogs joueront sur la pelouse de l'Atlético de Madrid face à Antoine Griezmann, le Français.
L'actualité du tennis, c'est l'ATP 500 de Bâle qui se déroule évidemment en Suisse.
4 Français sont engagés et c'est passé pour les 3 premiers. Giovanni Mpetti-Péricard a battu l'Australien James Duckworth. Hugo Humbert est difficilement venu à bout du Suisse Jérôme Kim. Et enfin, Arthur Fils s'est imposé sur l'Allemand Daniel Altmaier. Ils se sont donc qualifiés pour le deuxième tour. Demain, au premier tour, on retrouvera Adrien Manarino qui sera opposé à un autre Suisse, l'ex numéro 3 mondial Stan Wawrinka.
Et puis de tennis de table en métropole avec le WTT Champions qui démarre aujourd'hui à Montpellier. L'élite du ping est au rendez-vous avec les frères Lebrun, évidemment, Alexis et Félix, médaillés olympiques cet été et récemment sacrés champions d'Europe. Les deux frères pourraient s'affronter dès les quarts de finale. Et puis on termine cette page de sport, Léo, avec un mot de kitesurf et les championnats de France qui ont démarré hier.
Oui, avec les Calédoniens Phoebe Rocher et Antoine Olivier qui ont participé à la cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée à Le Cadre, dans le sud de la France. Près de 250 riders sont présents. Je rappelle que Phoebe Rocher a été sacrée championne du monde junior le mois dernier. Chez les garçons, Antoine Olivier avait terminé sur la deuxième marche du podium. Cette semaine, les deux Calédoniens vont tenter de réaliser le doublé chez les juniors et en Open.